Chers amis, bonjour. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens « Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous. Mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. » Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, les versets 11 à 13. On sent dans ces mots à quel point l'apôtre est ému. Un cri de tristesse à la fois et d'ardent désir s'échappe de son âme. Il avait souvent ouvert son cœur aux Corinthiens, ses chers chrétiens n'étaient pas à l'étroit dans son cœur, pour reprendre son expression. Ils y occupaient une large place. Mais il n'en était pas ainsi des Corinthiens à l'égard de l'apôtre. Il leur dit, et voici le texte littéral, « Vous êtes rétrécis dans vos entrailles. » Leur cœur se fermait, ils n'avaient plus ni confiance ni amour. Aussi, Paul souhaitait vivement que les Corinthiens élargissent leur cœur, et envers lui, et envers la vérité, et envers le Sauveur. Je reviendrai dans quelques instants sur ces paroles de l'apôtre Paul, mais en considérant attentivement la parole de Dieu, nous ne pouvons pas ne pas être saisis par la vision que le Seigneur nous donne de son œuvre. Une vision mondiale, et je vais insister là-dessus. Tout commence avec l'appel d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et écoutez bien, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse, chapitre 12, les versets 1 à 3. Et cette vision mondiale court à travers toutes les pages de la Bible. Elle brille dans l'annonce messianique par la bouche des prophètes. Je me contenterai de citer le prophète Ésaïe, annonçant de la part de l'Éternel la venue de Jésus, il s'écrit « Il annoncera la justice aux nations ». Je te prendrai par la main et je t'établirai pour être la lumière des nations. Ésaïe chapitre 42, verset 1er et verset 6. Autant marqué par Dieu, nous le savons, les prophéties se sont accomplies. Dieu a envoyé son Fils. Et dans le temple de Jérusalem, Siméon, prenant l'enfant Jésus dans ses bras, s'écrie « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Évangile de Luc, chapitre 2, les versets 29 à 32. Jésus, parlant de son œuvre à la croix, déclare « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et l'évangéliste Jean ajoute « En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. » Jean chapitre 12, les versets 32 et 33. Avant de remonter au ciel, Jésus va inscrire à nouveau avec force dans le cœur de ses disciples la vision mondiale de l'œuvre de Dieu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, leur dit-il, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Cette vision mondiale était bien présente dans la prédication apostolique. Citons seulement ces paroles de l'apôtre Pierre prononcées dans la maison du centenier Corneille, et vous allez voir que au début et à la fin du discours de l'apôtre Pierre, la vision mondiale est bien présente. Au début, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Et à la fin du discours, « Tous les prophètes rendent de lui, de Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 et 35 et le verset 43. Et le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, nous donne la vision glorieuse des fruits de l'œuvre de Christ. Et là encore, l'Esprit de Dieu nous donne une vision mondiale. Écoutez plutôt le cantique des quatre êtres vivants et des 24 anciens. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Apocalypse, chapitre 5, les versets 9 et 10. Et Jean écrit encore, « Après cela je regardais, et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Ainsi, nous le voyons, de la Genèse à l'Apocalypse, le monde entier est dans le cœur de Dieu. Le centre de l'Évangile n'est-il pas ce verset si connu de l'Évangile de Jean, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean chapitre 3, verset 16. Et il est intéressant de réfléchir à ces deux mots, monde et quiconque. Le monde, c'est la vision globale. Quiconque, c'est l'accueil et l'appel individuel. Paul nous dit encore que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Première épître à Timothée, chapitre 2, verset 4. Le monde n'est donc pas à l'étroit dans le cœur de Dieu. Et Dieu aimerait qu'il en soit ainsi dans le cœur de ses enfants. Je reviens aux paroles de l'apôtre citées en introduction. Il est bon, mes frères et sœurs, de sonder notre cœur pour voir si la vision mondiale de son œuvre y est bien présente. Si notre cœur brûle d'amour pour les nations, si nos yeux sont remplis d'une grande vision missionnaire, et si nos prières sont des requêtes sans frontières. Je crains que les entrailles de bon nombre de croyants soient rétrécies sous l'effet destructeur de l'égoïsme, de l'insensibilité, de l'indifférence, de l'insouciance et de la tiédeur spirituelle. Alors certes, nous devons prier pour tous nos besoins personnels et dans tous les domaines de notre vie. La parole de Dieu nous exhorte d'ailleurs à ne nous inquiéter de rien, mais en toute chose, à faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Nous devons prier pour nos proches, convertis ou non, époux, épouses, enfants, parents, petits-enfants. Nous devons faire monter vers Dieu des requêtes pour nos frères et sœurs en la foi, connus de nous, tout cela est indispensable. Mais, je me permets de le dire, si nous en restons là, alors l'œuvre de Dieu est à l'étroit au-dedans de nous. Nos entrailles sont rétrécies. Bon nombre de croyants sont ainsi très limités dans leur vie de prière. Une vie de prière qui se résume à quelques minutes au cours desquelles ils réclament une foule de bénédictions pour eux et pour leurs proches. Mais où sont les prières sans frontières, comme je les appelle? L'apôtre Paul écrit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les hommes. » 1 Épître à Timothée, chapitre 2, verset 1er. Jésus a dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Matthieu chapitre 9, les versets 37 et 38. Eh bien, le faisons-nous régulièrement? L'Église a besoin d'apôtres, de prophètes, de pasteurs-docteurs, d'anciens. Il faut encore des évangélistes pour proclamer la bonne nouvelle. Paul dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ?» Épître aux Romains, chapitre 10, les versets 14 et 15. Nous devons prier pour la prédication des hommes de Dieu. Paul réclamait la prière des chrétiens d'Éphèse, par exemple. « Priez pour moi, disait-il, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 19. Les premiers chrétiens priaient ardemment pour la prédication de l'Évangile. « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, disait-il à Dieu, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Actes des Apôtres, chapitre 4, les versets 29 et 30. Nous devons prier pour que Dieu ouvre de nouvelles portes devant ses serviteurs. « Priez en même temps pour nous, écrivait Paul aux Colossiens, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. » Chapitre 4, verset 3. « Que de forteresses spirituelles à abattre dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes. Que de murailles, mes frères et sœurs, que de murailles à renverser dans certaines nations dominé par l'athéisme, l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, l'animisme, les pratiques vaudoues, et je pourrais allonger la liste. Quelle place ont ces nations dans notre vie de prière? Corée du Nord, Inde, Chine, nations arabes, nombreux pays d'Afrique, Haïti, pour ne citer que celle-là. Nous devons prier pour le salut du plus grand nombre. Alors oui, il est utopique d'attendre un réveil mondial, l'Écriture ne nous y autorise pas. Mais nous pouvons désirer le salut de très nombreuses âmes. Que les perdus ne soient pas à l'étroit dans les entrailles des chrétiens, entrailles rétrécies par un profond égoïsme. Prions pour le réveil des églises, partout où cela est nécessaire et possible. Je crois à la réalité de réveils locaux, là où des chrétiens se donnent les moyens spirituels de l'obtenir. Vous savez, je suis profondément attristé de voir une partie de l'Europe se déchirer, être piétinée, voir des millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans une détresse indescriptible, et de constater que des chrétiens continuent de danser, de se trémousser dans un christianisme délabré, j'assume pleinement mes propos, au lieu de se jeter sur leurs genoux et de crier à Dieu pour un relèvement et pour une vraie restauration. Nous devons prier pour Israël et pour la paix de Jérusalem. Demandez la paix de Jérusalem, écrit David au psaume 122, verset 6. Nous savons les temps glorieux qui attendent le peuple élu. Jésus va établir son règne glorieux depuis Jérusalem. Mais avant cela, des temps effroyables attendent la nation juive. Des peuples rêvent de l'exterminer et de la raser de la carte du monde. Nous devons prier pour tous les moyens modernes, convenables, qui servent de support à la proclamation de l'Évangile. Sites internet chrétiens, émissions de radio, émissions de télévision, travail de rue, travail de distribution de traités évangéliques, d'exemplaires du Nouveau Testament ou de la Bible complète. Pensons aux visiteurs de prison, aux visiteurs, aux aumôniers dans les hôpitaux, tous ceux qui d'une manière ou d'une autre dispensent la parole du Seigneur. Pensons-nous au travail magnifique des sociétés bibliques à travers les nations. Dans divers pays, certaines sont menacées quotidiennement. Prions-nous pour les librairies chrétiennes à travers le monde, pour les maisons d'édition de littérature biblique, pour les traducteurs de la Bible qui accomplissent un travail remarquable pour que la parole de Dieu écrite atteigne les langues et les dialectes encore privés de ce trésor divin. Quelle place ont dans nos prières nos frères persécutés au milieu des nations? Les derniers recensements font écho de 360 millions de chrétiens persécutés sur la planète. Certains vivent sous les menaces et les interdictions permanentes. Ils vivent traqués, surveillés. Ils prennent d'énormes risques pour poursuivre l'évangélisation et l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. D'autres sont battus, torturés, emprisonnés, mis à mort. Eh bien, prions-nous pour qu'ils aient la force de tenir et de tenir jusqu'au bout. Prions-nous pour les leurs, veufs ou veuves, orphelins. Oh, comme je sens mon cœur tellement rétréci. Prions-nous pour les nations en souffrance. Pensons à celles qui sont victimes de catastrophes naturelles, inondations, tornades, cyclones, qui génèrent d'autres fléaux, misère matérielle, épidémie, famine. Les nations victimes de la guerre, de la folie, de la barbarie humaine. Dieu attend de nous bien plus que de faibles balbutiements. Entendra-t-il de la bouche de ses enfants de fervente intercession. Prions-nous pour ceux qui nous gouvernent. Paul écrit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Première épître à Timothée, chapitre 2, les versets 1 et 2. Comme il est facile, mes chers amis, comme il est facile de se retrancher derrière un fatalisme bien arrangeant. Nous sommes dans les temps de la fin, ces choses doivent arriver, nous n'y pourrons rien changer, Dieu fait comme il veut, etc., etc. Lorsque Paul a écrit l'exhortation que je viens de vous lire, l'empire effrayant de Rome dominait le monde. Et c'est dans cette époque-là que Paul a demandé de faire des prières pour les dirigeants du monde. Une reine redoutait les prières de John Knox plus que toutes les armées du monde. Nous sommes dans un temps très préoccupant, vous le savez, vous le sentez, pour la sécurité des nations européennes et des nations mondiales. Nous sommes à la veille d'une très grave et grande crise économique. Dieu tient les grands, les puissants dans sa main. Prions pour que sa volonté soit faite par eux sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Alors ce coup d'œil rapide sur les nations est bien incomplet, j'en suis convaincu, j'en suis conscient. Mais puisse l'Esprit de Dieu s'emparer de notre cœur pour élargir davantage encore notre vision. Mon souhait, mes frères et sœurs, c'est que ce que j'ai partagé avec vous ici, très simplement mais à cœur ouvert, ne laisse pas une trace pour quelques minutes seulement, le temps d'apporter aujourd'hui à Dieu quelques sujets de prière, mais que nous entrions dans une vraie et puissante vie d'intercession. Que Dieu nous y aide. Amen.